Philippiens chapitre 4, verset 1er au verset 9. Nous lisons ceci. C'est pourquoi, mes bien-aimés et très chers frères, vous qui êtes ma joie et ma couronne, demeurez ainsi fermes dans le Seigneur, mes bien-aimés. J'exhorte Évodie et j'exhorte Saint-Tiche à être d'un même sentiment dans le Seigneur. Et toi aussi, fidèle collègue, oui, je te prie de les aider, elles qui ont combattu pour l'Évangile avec moi et avec Clément et mes autres compagnons d'œuvre, dont les noms sont dans le livre de vie. Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Je le répète, réjouissez-vous. Que votre douceur soit connue de tous les hommes, le Seigneur est proche. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications, avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Au reste, frères, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange, soit l'objet de vos pensées. Ce que vous avez appris, reçu et entendu de moi, et ce que vous avez vu en moi, pratiquez-le, et le Dieu de paix sera avec vous. Prions, Seigneur. Seigneur, nous te remettons maintenant cette étude de ta parole entre tes mains. Seigneur, veuille parler à nos cœurs, que nous soyons vraiment à ton écoute et que nous puissions mettre ces choses en pratique. Oui, Seigneur, nous voulons nous confier en toi et nous appuyer sur toi, Seigneur, en cela. Sois glorifié encore dans chacune de nos vies. Au nom de Jésus-Christ, amen. Amen. Dans le chapitre 2 de l'Épître aux Philippiens, l'apôtre a présenté le Seigneur Jésus-Christ s'abaissant de la gloire jusqu'à la croix, manifestant l'humilité qui devrait caractériser les croyants et nous permettre d'être de vrais témoins pour Christ dans le monde que nous traversons. Dans le chapitre 3 de cette épître, l'apôtre a dirigé nos regards vers Christ, vers le Christ exalté dans la gloire, comme Seigneur, celui en qui nous voyons le but glorieux vers lequel nous marchons, nous qui avons cru en lui. Dans ce chapitre 4, l'apôtre nous exhorte quant à ce qui doit caractériser pratiquement notre vie journalière. La vie journalière de ceux qui ont Christ devant eux comme leur parfait modèle et leur unique but. Et il présente aussi dans ce chapitre Christ comme celui qui peut nous fortifier en toutes choses. L'apôtre Paul aimait sincèrement les gens. Il appelle les Philippiens ses frères, et mieux encore, ses bien-aimés et très chers frères. Verset 1er, c'est pourquoi mes bien-aimés et très chers frères. Paul montre ici sa profonde affection pour les croyants de Philippe, en les appelant ainsi. Le mot grec ici traduit par « très cher » évoque la vive douleur que provoque la séparation d'avec des êtres aimés. Les Philippiens manquaient à l'apôtre Paul, et l'apôtre avait hâte de les revoir. Il les dépeint comme sa joie et sa couronne. « Vous qui êtes ma joie et ma couronne. » Sans doute veut-il dire qu'ils sont sa joie dans le temps présent, ce qu'ils étaient, et seront sa couronne lors du tribunal de Christ. Paul ne tirait pas sa joie des circonstances, mais de ses frères et de ses sœurs de Philippe. Au chapitre 1er, verset 3, chapitre 1er, verset 3 à 5, Paul dit dans sa lettre « Je rends grâce à mon Dieu de tout le souvenir que je garde de vous. » ne cessant dans toutes mes prières pour vous tous de manifester ma joie au sujet de la part que vous prenez à l'Évangile depuis le premier jour jusqu'à maintenant. Paul se réjouissait de la part que les Philippiens avaient pris à l'Évangile depuis le premier jour jusqu'à maintenant. Par leur évangélisation, bien sûr, personnelle, mais aussi par le soutien qu'ils avaient apporté au ministère de Paul. Cela remplissait le cœur de Paul de joie. Cette part, cette participation à l'Évangile. Par exemple, Lydie, une des premières converties de l'église de Philippe, avait, eh bien, pratiqué l'hospitalité concernant l'apôtre Paul et ses compagnons, les invitant dans sa maison. Le geôlier de Philippe, un aussi des premiers convertis de cette église de Philippe, avait soulagé Paul de ses plaies et son compagnon de captivité. En lavant ses plaies après sa conversion, il les avait aussi accueillis dans sa maison. Il avait pratiqué l'hospitalité. Et dans un sens, il avait aussi participé, pris part à l'Évangile, participé au ministère d'évangélisation de l'apôtre Paul. Au chapitre 4, verset 10, Paul, concernant les Philippiens, leur dit « J'ai éprouvé une grande joie dans le Seigneur de ce que vous avez pu enfin renouveler l'expression de vos sentiments pour moi. Vous y pensiez bien, mais l'occasion vous manquait. » Et au verset 15, concernant cette expression de leurs sentiments pour lui, il dit « Vous le savez vous-même, Philippiens, au commencement de la prédication de l'Évangile, lorsque je partis de la Macédoine, aucune église n'entra en compte avec moi. » Pour ce qu'elle donnait et recevait, vous fûtes les seuls à le faire, car vous m'envoyâtes déjà à Thessalonique et à deux reprises de quoi pourvoir à mes besoins. Et en pourvoyant aux besoins de l'apôtre Paul et de ses compagnons, les Philippiens, dans un sens, prenaient part, participaient au ministère d'évangélisation de l'apôtre Paul. Là où eux ne pouvaient pas aller, là où l'apôtre Paul allait évangéliser, eux, ils ne pouvaient pas y aller, eh bien, parce qu'ils soutenaient l'apôtre Paul et donc rendaient aussi ce ministère possible, ils prenaient part à ce ministère, ils participaient à ce ministère de l'Évangile. Et c'est ce que vous faites. J'aimerais encore vous remercier pour votre soutien fidèle depuis des années que vous soutenez ma famille, pour ce ministère auprès du peuple juif, je tenais à vous remercier pour cela. Parce que vous prenez part à ce ministère d'évangélisation du peuple juif. Peut-être que vous ne pouvez peut-être pas évangéliser des juifs parce que, je ne sais pas si à Étréchy, à Étampes, il y en a beaucoup, il doit y en avoir probablement. Même s'il n'y a pas de synagogue dans un endroit, tous les juifs ne sont pas religieux et tous les juifs ne vont pas s'installer dans des villes où il y a forcément des synagogues. Il y a des juifs athées, il y a des juifs qu'on appelle sécularisés, et presque la moitié de la communauté juive française, c'est ça. C'est des juifs sécularisés qui vivent dans ce siècle, qui ne sont pas pratiquants. Soit ils sont athées, soit ils croient en Dieu, mais ils ne sont pas pratiquants. Et ces juifs-là, eh bien, peuvent s'installer, peuvent avoir une maison à Étréchy, peuvent avoir une maison ou un appartement à Étampes. Il y a aussi des juifs traditionnels, c'est-à-dire qui ne pratiquent que les grandes fêtes. Par exemple, la Pâque, le Yom Kippour, mais qui ne font pas sabbat, le sabbat, qui ne mangent pas kasher, qui sont des juifs, on appelle ça traditionnels. Donc c'est la tradition, on fait certaines fêtes, mais pas d'autres. Et la plupart des Juifs, la majorité des Juifs sont comme cela. Et peut-être y en a-t-il dans cette ville d'Étréchy ou à Étampes que vous pouvez évangéliser. Mais dans un sens, en me soutenant, en soutenant mon ministère d'évangélisation du peuple juif, vous participez dans un sens à ce ministère. Vous prenez part à ce ministère auprès des Juifs. Quand je vais à Saint-Paul, vous prenez part à ce ministère. Quand j'évangélise des Juifs, vous prenez part à ce ministère au travers le soutien que vous m'apportez à ma famille, à moi-même, et je tenais encore à vous en remercier. Ce passage que nous venons de lire contient plusieurs exhortations quant à ce qui doit caractériser pratiquement notre vie journalière. Plusieurs exhortations. C'est ce que nous verrons ce matin. Lesquelles ? La première de ces exhortations se trouve au verset 1er. Où nous lisons « Demeurez ainsi fermes dans le Seigneur, mes bien-aimés. » Demeurez fermes dans le Seigneur. Voilà la première exhortation que l'apôtre Paul apporte aux chrétiens de Philippe et nous apporte aussi. Rien ne pouvait procurer plus de joie à l'apôtre que d'apprendre que ses enfants spirituels demeuraient fermes dans le Seigneur. Dans la première épître aux Thessaloniciens, première épître aux Thessaloniciens chapitre 3, versets 8 et verset 9, nous lisons « Car maintenant nous vivons puisque vous demeurez fermes dans le Seigneur. Quelle action de grâce en effet nous pouvons rendre à Dieu à votre sujet pour toute la joie que nous éprouvons à cause de vous, devant notre Dieu ?» Les Thessaloniciens, parce qu'ils demeuraient fermes dans le Seigneur, étaient une source de joie pour l'apôtre Paul. Demeurer ferme dans le Seigneur, ça signifie tenir bon, persévérer, demeurer dans les voies du Seigneur. Au verset 1er, chapitre 1er, verset 27, de l'épître aux Philippiens, on va revenir à cette épître. Paul écrit ceci aux Philippiens, « Seulement conduisez-vous d'une manière digne de l'évangile de Christ, afin que soit que je vienne vous voir, soit que je reste absent, j'entende dire de vous que vous demeurez ferme dans un même esprit, combattant d'une même âme, pour la foi de l'Évangile. Tenir bon, persévérer, demeurer ferme dans un même esprit. Et il s'agit ici de l'unité. Il y avait dans l'église de Philippe un problème d'unité, un problème d'harmonie. Et cela venait, eh bien, et nous en parlerons dans mon deuxième point, de ces deux sœurs, Évodie et Saint-Tiche, qui semait la division dans l'Église. Demeurez ferme dans l'unité. Bien sûr, l'unité, et ça je vous le dis, c'est toujours, et vous le savez, toujours dans la vérité. C'est la prière sacerdotale de Jean chapitre 13. L'unité n'est pas artificielle, elle est toujours en Christ et dans la vérité. Demeurez ferme dans la foi, combattant d'une même âme pour la foi de l'Évangile. Demeurez ferme dans la foi. Ici, il s'agit bien sûr de la doctrine. Il y avait dans l'église de Philippe des hommes qui essayaient de les troubler. Et Paul dit aux Philippiens, prenez garde. Prenez garde, chapitre 3, aux chiens, prenez garde aux mauvais ouvriers, prenez garde aux faux circoncis. Il y avait dans l'église de Philippe des faux docteurs qui essayaient de s'infiltrer et qui essayaient d'enseigner de fausses doctrines, un faux évangile, le légalisme. Et Paul encourage les Philippiens à tenir bon, à persévérer, à demeurer dans la foi, dans la vraie doctrine. Demeurer aussi, tenir bon, persévérer dans une sainte conduite. Chapitre 4, versets 4 à 8, où nous lisons « Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur, je le répète, réjouissez-vous. Que votre douceur soit connue de tous les hommes, le Seigneur est proche. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce. » Et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Au reste, frères, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange, soit l'objet de vos pensées. Tenir bon, persévérer, demeurer dans une sainte conduite. Et pour cela, nous pouvons compter sur Dieu. Paul, au verset 13, dit « Je puis tout par celui qui me fortifie ». Nous pouvons compter sur Dieu et sur la force que Dieu va nous communiquer, sa puissance, pour pouvoir demeurer ferme en lui. Ce passage contient plusieurs exhortations quant à ce qui doit caractériser pratiquement notre vie journalière. Et l'épître aux Philippiens est une épître très pratique. C'est une épître, je lis juste un petit commentaire, qui est essentiellement pratique. Le thème majeur étant la poursuite de la ressemblance à Christ, facteur déterminant de la croissance spirituelle et objet de la passion de Paul pour sa vie. Une épître essentiellement pratique. Le deuxième, alors lesquels ? Deuxième exhortation, c'est avoir une même pensée dans le Seigneur. Au verset 2, nous lisons, et jusqu'au verset 3, « J'exhorte Évodie et j'exhorte Saint-Tiche à être d'un même sentiment ou d'une même pensée dans le Seigneur. Et toi aussi, fidèle collègue, oui, je te prie de les aider, elles qui ont combattu pour l'Évangile avec moi et avec Clément et mes autres compagnons d'œuvre, dont les noms sont dans le livre de vie. » Évodie et Saint-Tiche sont deux femmes de l'Église qui ne s'entendent pas. Nous ne connaissons pas les raisons de leur désaccord, de leur discorde, de leur manque d'harmonie. L'apôtre Paul n'en parle pas. Par contre, ceux qui se sont, moi j'ai lu des commentaires, ceux qui se sont vraiment, qui ont pris du temps vraiment penchés sur la question, mais bien sûr, sans affirmer que c'est exactement cela, mais certains pensent que c'était un problème lié au service. Elles ne s'entendaient pas par rapport à cela. Et cela se met la division dans l'Église à cause de cela. Au verset 2, Paul dit « Si donc il y a quelque consolation en Christ, s'il y a quelque soulagement dans l'amour, s'il y a quelque communion d'esprit, s'il y a quelque compassion et quelque miséricorde, rendez ma joie parfaite, ayant un même sentiment, un même amour, une même âme, une même pensée. » Cela se met la division dans l'église de Philippe. Ces deux femmes étaient des membres en vue de l'église. Elles faisaient même peut-être partie des femmes réunies pour la prière lors de la première prédication de Paul dans cette ville de Philippe. Chacune d'elles était à la tête de factions rivales dans l'église, et cela probablement suite à un conflit personnel entre elles. Paul les exhorte à être d'un même sentiment, et on pourrait traduire cela par harmonie, d'une même harmonie entre elles. L'amour réciproque, l'harmonie et la paix entre croyants sont indispensables à la stabilité spirituelle de l'Église. Les divisions de l'église de Philippe menaçaient de détruire l'intégrité de son témoignage. La solution au problème, Paul la donne dans cette lettre au chapitre 2, « Ne faites rien par esprit de parti ou par vaine gloire, mais que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même. » Que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Voilà la solution au problème de ces deux femmes et donc de division dans l'Église. Le problème devait être réglé. Jacques nous dit dans sa lettre, « Voyez comme un petit feu peut embraser une grande forêt. » Et ce petit feu de cette discorde, de ce conflit personnel entre ces deux femmes, pouvait embraser la grande forêt de l'église de Philippe, ce petit feu. Ce passage contient plusieurs exhortations quant à ce qui doit caractériser pratiquement notre vie journalière. Lesquelles ? Nous avons vu premièrement de demeurer ferme dans le Seigneur. Deuxièmement, avoir une même pensée dans le Seigneur. Troisièmement, nous réjouir toujours dans le Seigneur. C'est un des thèmes de cette épître, la joie dans le Seigneur. Quand vous êtes déprimé ou découragé, lisez l'épître aux Philippiens, ça vous fera du bien. On dit souvent les psaumes, et c'est vrai, lisez les psaumes, lisons les psaumes. Mais l'épître aux Philippiens, moi je sais que quand je suis déprimé ou découragé, que je manque de joie, je lis l'épître aux Philippiens, et ça me, voilà, ça me redonne la force de retrouver cette joie dans le Seigneur. Parfois, les épreuves et les soucis de la vie nous rendent presque incapables d'être heureux. Mais quelles que soient les circonstances de sa vie, aussi sombres soient-elles, le chrétien peut toujours en tout temps se réjouir dans le Seigneur et faire de lui ses délices. Paul était lui-même un excellent exemple de la mise en pratique de ce principe. Car il se réjouissait intérieurement, même lorsque les circonstances extérieures, que ce soit la captivité, Paul était en prison quand il a écrit cette lettre, que ce soit les persécutions, Paul en a connu des persécutions. Nous, nos persécutions à côté, ce n'est pas grand-chose. Bon, après, je ne vous connais pas, peut-être, souffrez-vous vraiment de la persécution, mais c'est vrai que dans les pays occidentaux, la persécution, ce n'est vraiment pas grand-chose. Les menaces de mort. Avons-nous déjà été menacés de mort à cause de notre foi au Seigneur ? Connaissons-nous, ça peut-être certains d'entre vous, mais dans un pays comme la France, c'est quelque chose d'extrêmement rare quand même. Extrêmement rare. Je me souviens d'un frère qui évangélisait dans le quartier juif, et un jour il m'a dit, écoute Philippe, j'ai eu un juif qui est venu, un homme, et il m'a dit, je fais partie de la mafia juive, si je te vois la semaine prochaine, je te mets une balle dans la tête. Voilà, il l'a menacé. C'était peut-être, je veux dire, complètement faux, mais il a eu une menace quand même. Ce frère m'a rapporté ça, et ça lui a quand même fait assez peur. Alors peut-être que c'était peut-être une fanfaronnade. Cet homme n'était rien du tout, c'était simplement une menace comme ça, mais quoi qu'il en soit, eh bien, lui a connu cette menace. Paul était lui-même un excellent exemple de la mise en pratique de ce principe, car il se réjouissait intérieurement, même lorsque les circonstances extérieures jouaient contre lui. Se réjouir dans le Seigneur. Paul avait déjà écrit cela aux Philippiens, au chapitre 3, « Au reste, mes frères, réjouissez-vous dans le Seigneur. Je ne me lasse point de vous écrire les mêmes choses. » C'est un des thèmes récurrents de Paul dans cette épître, « Se réjouir dans le Seigneur. » Se réjouir dans le Seigneur est bien spécifié la sphère dans laquelle se situe la joie du croyant. Cette joie est sans rapport avec les circonstances favorables ou défavorables de la vie. Elle dépend d'une relation inaltérable et permanente avec le Seigneur. La joie dans le Seigneur. Se réjouir de ce qu'il est. Se réjouir de ses œuvres. Se réjouir de ses promesses, se réjouir de notre relation avec lui, de notre communion avec lui. Trouver notre joie dans le Seigneur. Tout à l'heure, on va se réjouir de cet agape, d'être ensemble. La communion fraternelle fait partie de la joie aussi que Dieu a donnée aux chrétiens. D'être ensemble, la communion fraternelle, c'est cet agape. Puis comme on est des Français, on va se réjouir de bien manger aussi. Mais toutes ces choses sont passagères. Demain, on va retourner au travail. Et là, demain au travail, on va peut-être retrouver les soucis, les problèmes, les pressions, le stress. Et cette joie qu'on avait de cet agape d'aujourd'hui, tout ça, ça va être dissipé, ça va disparaître. Mais la joie dans le Seigneur, non. Parce que la joie du Seigneur que nous avons aujourd'hui, c'était la même hier. Le Seigneur, lui, ne change pas. Les circonstances changent. Mais le Seigneur ne change pas. Et demain, le Seigneur n'aura toujours pas changé. On aura toujours le même Seigneur. Et notre joie sera la même. On peut connaître des moments de tristesse légitime. Vous connaissez un deuil, c'est une tristesse légitime. Mais même au sein d'un deuil, de cette tristesse légitime, on peut connaître la joie du Seigneur. Parce que le Seigneur, il est toujours là, à nos côtés, près de nous. On peut toujours, eh bien, on a toujours cette relation avec lui. Et notre joie, cette joie demeure. Elle ne peut pas nous être retirée. Nous réjouir toujours dans le Seigneur. Ce passage contient plusieurs exhortations quant à ce qui doit caractériser pratiquement notre vie journalière. La quatrième de cette chose, c'est de manifester la douceur du Seigneur envers tous les hommes. Verset 5, nous lisons que votre douceur soit connue de tous les hommes, pas de certains hommes seulement, de ceux qui sont gentils et sympathiques avec nous, mais de tous les hommes. Faire preuve de douceur. Nous devons agir avec les autres avec douceur et non avec dureté, à l'exemple de notre Seigneur qui était doux et humble de cœur. La douceur, c'est un terme qui renvoie au contentement par rapport aux autres et à la générosité réciproque. Le contentement, le mécontentement nous rend dur, nous rend irritable. Mais quand on connaît ce contentement, cette joie dans le Seigneur, ça nous rend doux. Il peut aussi, ce mot doux qui est traduit par douceur, désigner la grâce ou l'indulgence devant les défauts et les échecs des autres. Parfois, on se montre dur, irritable devant les défauts et les échecs des autres. Ça nous irrite, ça nous rend dur envers eux. On est mécontent. Il peut même décrire la patience de celui qui accepte l'injustice ou les mauvais traitements sans exercer de représailles. C'est ce dont probablement ces deux sœurs, Évodie et Saint-Tiche, avaient besoin, et certains autres croyants de l'église de Philippe avaient besoin de la douceur. Soyons reconnus pour notre douceur. On vit dans un monde dur. On le chante géré dans un monde dur et froid. Manifestons envers les autres de la douceur, à l'exemple de notre Seigneur qui était doux et humble de cœur. Une autre exhortation quant à ce qui doit caractériser pratiquement notre vie journalière, c'est de vivre dans l'attente du retour du Seigneur. Vivons-nous dans l'attente du retour du Seigneur. Verset 5, le Seigneur est proche. Le Seigneur est proche. On en discutait ce matin, quand on voit tout ce qui se passe autour de nous, on voit que le retour du Seigneur est proche. Le mot proche ici peut signifier soit la proximité, donc dans l'espace, que dans le temps. Alors certains commentateurs privilégient plutôt cette proximité dans l'espace. Mais ici, probablement, dans le passage, il s'agit du temps. Et cela à cause du contexte. Le contexte milite pour cette interprétation-là. Le Seigneur est proche dans le temps. Il va revenir bientôt. Et nous, en tant que chrétiens, nous devons vivre dans l'attente du retour du Seigneur. Au chapitre 3, verset 20, Paul dit « Mais nous sommes citoyens des cieux ». Et donc, nous devons nous comporter comme tels, comme des citoyens des cieux. D'où nous attendons aussi comme sauveur le Seigneur Jésus-Christ, qui transformera le corps de notre humiliation en le rendant semblable au corps de sa gloire par le pouvoir qu'il a de s'assujettir toutes choses. Et ce verbe « attendons » suggère une attente tellement empressée qu'elle porte la personne à trépigner. Voilà ce que suggère ce verbe qui est traduit par « attendre ». Bien sûr, nous demeurons patients aussi, jusqu'à ce que le Seigneur vienne. Nous sommes patients. Mais nous attendons vraiment, c'est notre espérance, d'attendre confiance, le retour du Seigneur qui va nous enlever et qui va transformer, comme nous dit le texte, nous ressusciter et rendre transformer ce corps de notre humiliation en le rendant semblable au corps de sa gloire. Alors l'épître aux Philippiens n'est pas une épître eschatologique, c'est-à-dire elle ne parle pas vraiment des choses à venir, c'est pas on va dire le thème principal, mais elle en parle quand même. On voit que dans chaque chapitre, c'est assez intéressant, dans chaque chapitre, l'épître aux Thessaloniciens parle quand même, Paul parle des choses à venir. Par exemple, au chapitre 1er, il dit « Je suis persuadé que celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre la rendra parfaite pour le jour de Jésus-Christ. » Et le jour de Jésus-Christ, ici, c'est l'enlèvement de l'Église. C'est le retour du Seigneur pour les siens. Au verset 10, pareil, verset 10, il dit « Pour le discernement des choses les meilleures, afin que vous soyez purs et irréprochables pour le jour de Christ. » L'enlèvement de l'Église. Le retour du Seigneur pour les siens. Au chapitre 2, il parle au verset 11, verset 10, « Qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. » Et un jour, ça va arriver dans le futur. Tout le monde, même Satan, même le diable, il confessera que Jésus est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Il n'aura peut-être pas envie de le faire, mais il le fera. Voilà, il le fera. Parce que c'est la vérité, il le confessera. On voit un petit peu plus loin qu'il nous est encore, il est dit que Paul, portant la parole de vie, et je pourrais me glorifier au jour de Christ, de n'avoir pas couru en vain ni travaillé en vain. Le jour de Christ, ici, toujours, eh bien, l'enlèvement de l'Église, le tribunal de Christ, le jour de Christ, où Paul pourra se glorifier donc au travers les Philippiens de l'œuvre qui a été accomplie donc chez eux. Verset chapitre 3 toujours. Chapitre 3, Paul dit, versets 10 et 11, « Pour parvenir, si je puis, à la résurrection d'entre les morts. » Pour parvenir, si je puis, à la résurrection d'entre les morts. Paul désirait connaître de son vivant, eh bien, la résurrection sans passer par la mort. Il désirait de son vivant connaître l'enlèvement de l'Église et d'aller à la rencontre du Seigneur dans les airs. C'est ce qu'il désirait au plus profond de lui-même. Et c'est ce que nous devons nous aussi désirer. Parfois, en tant que chrétien, on se dit vivement que je meurs et que j'aille auprès du Seigneur. Mais il y a quelque chose de meilleur que cela. C'est bien sûr que c'est merveilleux d'aller auprès du Seigneur. Quand on meurt, on va auprès du Seigneur. Mais il y a quelque chose encore de bien meilleur. C'est l'enlèvement de l'Église sans connaître la mort. C'est de ressusciter sans connaître la mort. Ça, c'est encore bien meilleur. Et c'est parce que quand on meurt, on va auprès du Seigneur, on n'est pas ressuscité. Hein. Le salut n'est pas encore consommé, on attend encore les choses. Le salut final, la résurrection et la glorification. Mais lorsque le Seigneur va revenir de notre vivant pour nous enlever, eh bien, on ne va pas connaître la mort, on va directement aller être transformé, ressuscité, glorifié à la rencontre du Seigneur dans les airs. Et ça, c'est merveilleux. C'est ça notre attente en tant que chrétien. Et puis, il parle encore, donc à la fin du chapitre 3, nous sommes citoyens des cieux, nous attendons aussi comme sauveur le Seigneur Jésus-Christ, qui va transformer donc le corps de notre humiliation en le rendant semblable au corps de sa gloire, par le pouvoir qu'il a de s'assujettir toutes choses. Et puis donc au chapitre 4, il nous dit « Le Seigneur est proche. Le Seigneur va bientôt revenir pour nous enlever, pour nous délivrer de cette colère à venir qui va venir sur la terre pour juger le monde. Nous allons être enlevés à la rencontre du Seigneur dans les airs, parce que Dieu ne nous a pas destinés à la colère, mais être délivrés de celle-ci. » Et après, c'est l'Apocalypse qui va commencer à partir du chapitre 6. Mais nous, l'Église, on la voit dans le chapitre 4 et 5 du livre de l'Apocalypse, on est déjà nous au ciel. Et à partir du chapitre 6, eh bien, on voit que Dieu, les jugements commencent sur terre. Mais nous ne connaîtrons pas ça en tant que chrétiens. Une autre exhortation, sixième exhortation, rejetez tous nos soucis sur Dieu par la prière. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce. Ne vous inquiétez de rien. L'inquiétude et les soucis révèlent un manque de confiance dans la sagesse, la souveraineté ou la puissance de Dieu. Nous réjouir dans le Seigneur et méditer sa parole constituent les meilleurs antidotes à l'angoisse. Paul exhorta les Philippiens à prier plutôt qu'à s'inquiéter. Si notre douceur devait être connue, doit être connue de tous les hommes, nos prières doivent être connues du Seigneur. Nous serons délivrés de toute inquiétude en exposant toutes choses à Dieu. Lorsque nous confions à Dieu tous nos sujets d'inquiétude, il remplit alors nos cœurs de sa paix bienfaisante. Et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Elle surpasse cette paix de Dieu au sein des épreuves, au sein des soucis, toute intelligence. Quelqu'un qui vous voit serein, paisible, alors que vous avez plein de soucis dans votre vie, plein de sujets d'inquiétude, d'épreuves, ça dépasse son intelligence humaine. Il comprend pas ça. Mais comment ? Moi, je suis déjà complètement affolé. J'ai le stress, l'angoisse qui monte. Non, la paix de Dieu surpasse toute intelligence. Une femme venant consulter son médecin, une dame d'un certain âge, lui confia ceci. « Docteur, je m'inquiète beaucoup pour mon fils. » Pour quelle raison, madame, vous inquiétez-vous pour votre fils ? Parce qu'il s'inquiète beaucoup à mon sujet. Mais pourquoi s'inquiète-t-il, madame, à votre sujet ? Parce qu'il voit que je m'inquiète constamment pour lui. Et ainsi de suite, et ainsi de suite. Il existe tant de fausses inquiétudes dont il convient de se débarrasser au plus vite. Elles nous fatiguent inutilement, nous dépriment, nous minent. J'ai lu sur un commentaire que pratiquement 92% des sujets d'inquiétude sont soit complètement... Je dirais ça après par rapport aux pensées, vous verrez. On le verra par rapport aux pensées. Une croyante rendait un jour ce témoignage. « Je remercie le Seigneur, il m'a guéri de la maladie de me faire des soucis pour rien. » Suivons le conseil que donne l'Écriture. « Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières, des supplications avec des actions de grâce. » Pierre nous dit « Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. » Déchargeons-nous sur Dieu de tous nos soucis. Il va les porter à notre place, et nous n'aurons plus ce fardeau, ce poids, et la paix bienfaisante de Dieu nous remplira. Ce n'est plus nous qui porterons cela. Ce sera le Seigneur. Déchargeons-nous sur lui de tous nos soucis. Lorsque le croyant tient compte des exhortations mentionnées au verset 4 à 6, que nous avons déjà lu, alors la paix de Dieu remplit son âme troublée. La septième exhortation, c'est que nous devons avoir nos pensées occupées de ce qui est bon, suivant l'exemple de Christ. Au verset 8, nous lisons « On reste frère que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange, soit l'objet de vos pensées. » Dans ce verset, l'apôtre fait mention de six qualificatifs relatifs à une vie de l'esprit saine. Au verset 8, il est inutile de chercher bien loin pour trouver le Seigneur Jésus. Tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange, se trouve en lui. Dans le Seigneur Jésus. Passons en revue ces vertus une à une. Vrai signifie authentique et réel, au contraire de ce qui est faux et peu fiable. Et j'ai lu, là je vais vous dire ce que j'ai lu sur un livre, que 92% des pensées des personnes sont soit fausses, soit des mensonges, soit erronées, soit ce sont des pensées, des choses sur lesquelles, les personnes n'ont aucune prise. Et ça les inquiète, ça leur crée des soucis. Le diable et ce monde essaient de remplir notre esprit de mensonges. Des pensées d'erreur, des pensées de mensonges. Remplissons nos pensées, notre esprit, de la parole de Dieu qui est la vérité. Noble signifie digne en soi et digne de respect. Avoir des pensées dignes en soi, en elles-mêmes, dignes de respect. Pur, étranger à l'immoralité. Cultivons-nous des pensées immorales. Juste, c'est-à-dire conformes aux normes divines. Nos pensées sont-elles conformes aux normes divines? Aimable, ce qui est source de paix et non de querelle. Tout ce qui mérite l'approbation se rapporte à ce qui est positif et constructif plutôt qu'à ce qui est négatif et destructeur. Ne cultivons pas des pensées négatives et destructrices, mais plutôt positives et constructives. Même le monde, vous savez, même le monde reconnaît cela, que quand nous avons des pensées positives et constructives, on va mieux. Même le monde le reconnaît. Alors, il faut faire attention. Comme la sophrologie. La sophrologie, c'est quoi? C'est vous faire avoir dans la tête des pensées de mensonges pour aller mieux. On vous dit, si vraiment tu ne vas pas bien, tu es angoissé, eh bien, tu penses que tu es sur une belle plage, des îles Seychelles, que tout va très bien, que c'est merveilleux. C'est faux, c'est pas la vérité. Ça peut être des pensées positives, mais c'est pas la vérité. Et tu iras mieux, ça c'est tirer du yoga, faire attention à ces choses-là. Mais la pensée positive et constructive, ce sont des pensées qui viennent de la parole de Dieu. Les promesses de Dieu. Les promesses de Dieu. C'est vrai. C'est positif, c'est constructif. Remplissons notre esprit de la parole de Dieu, des promesses de Dieu, pas du mensonge. Parce qu'il y a un mouvement qui se dit chrétien, de la pensée positive, de la visualisation, mais tout ça, ça ne vient pas du Seigneur, c'est faux. Ça vient de l'ennemi du Seigneur. Prenons garde à ces choses-là. Que ça s'affiche même dans les entreprises maintenant. Dans les entreprises, on fait venir des personnes qui essaient de vous enseigner la sophrologie, etc. Alors bien sûr, on vient d'une certaine manière et on essaie de vous faire penser à des mensonges pour aller mieux. Mais ça reste le mensonge. Cultivons dans notre esprit uniquement ce qui est vrai. La parole de Dieu et la vérité. Ces six types de pensées sont vertueux et dignes de louange. C'est ce que nous dit Paul, ce qui est vertueux et digne de louange soit l'objet de vos pensées. Au verset précédent, l'apôtre a assuré les croyants que Dieu garderait leur cœur et leurs pensées en Jésus-Christ. Mais il a omis de leur rappeler qu'ils avaient aussi une responsabilité dans ce domaine. Dieu ne garde pas l'esprit de celui qui ne veut pas le garder pur. Huitième et dernière exhortation, c'est être gouverné dans tout ce que nous faisons par Christ, unique objet de notre affection. Verset 9. Ce que vous avez appris, reçu et entendu de moi, ce que vous avez vu en moi, pratiquez-le et le Dieu de paix sera avec vous. Après avoir exhorté quant aux choses que nous devons penser, Paul passe aux choses que nous devrions faire. De nouveau, Paul se donne ici comme modèle aux croyants, étant lui-même un imitateur de Jésus-Christ. Il exhorte les saints à mettre en pratique ce qu'ils ont appris de lui et ce qu'ils ont vu en lui. Le lien étroit avec le verset 8 est éloquent, dit quelqu'un, ici c'est un commentateur. Une vie juste découle d'une pensée juste. Si la pensée est pure, la vie sera aussi pure. En revanche, si l'esprit d'une personne n'est qu'une fontaine de corruption, il est certain que ce qui émane d'elle sera souillé. Rappelons-nous toujours que si quelqu'un nourrit une mauvaise pensée assez longtemps, il finira par la traduire en acte. Veillons sur nos pensées. En marchant ainsi, Non seulement nous jouirons de la paix de Dieu, mais nous bénéficierons aussi de la présence du Dieu de paix, Dieu nous soutenant dans notre faiblesse. En conclusion, aussi éprouvantes que soient les circonstances par lesquelles nous pouvons avoir à passer, si terrible que soit le mal dans le monde, il est terrible le mal dans notre monde. Les défaillances au sein du peuple de Dieu, si grandes que soit l'opposition de l'ennemi, nos vies seront abondamment bénies si nous les vivons en accord avec les 8 exhortations que nous avons vues ce matin. Demeurez ferme dans le Seigneur, avoir en ayant une même pensée dans le Seigneur, se réjouir toujours dans le Seigneur, manifester la douceur du Seigneur envers tous les hommes, vivre dans l'attente du retour du Seigneur, rejeter tous nos soucis sur Dieu par la prière, avoir nos pensées occupées de ce qui est bon, suivant l'exemple de Christ, et être gouverné dans tout ce que nous faisons par Christ, unique objet de nos affections. Que ces exhortations que nous venons de voir ce matin de l'apôtre Paul, eh bien, puissent guider notre vie, et cela à la ressemblance de Jésus-Christ. Que le Seigneur vous bénisse.